On vous retrouve Fabrice Rigolet-Rose pour évoquer maintenant les agriculteurs. Avant le journal de 8h, on était sur les ostréiculteurs qui ont souffert pendant les fêtes avec des interdictions de vente. Là, les agriculteurs, eux, on les a vus il y a encore quelques jours, ici sur le pont de Cheviré à Nantes et puis partout en France, faire des blocages. Ils les ont levés après des annonces du gouvernement, de la simplification. Mais dans le détail, ça devait se discuter en préfecture, département par département. Visiblement, ça ne va pas assez vite, si on en croit le président de la FNSEA, qui demande à ce qu'on accélère. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous discutez? Vous les voyez en ce moment? Vous négociez?
Alors oui, je les voyais avant même les revendications et les manifestations, de manière continue en exploitation. Je crois que c'est très important de maintenir cette capacité de dialogue, d'écoute, de compréhension aussi d'un secteur qui est confronté finalement à la confluence de plusieurs enjeux. D'abord, c'est de maintenir un outil productif au moment où il faut que chacune et chacun d'entre nous s'en rende compte, où 50% des agriculteurs aujourd'hui en activité vont partir en retraite d'ici 2030. Donc c'est évidemment un enjeu majeur. Le second enjeu, c'est l'impératif de souveraineté alimentaire qu'a rappelé Monsieur le Premier ministre et qui est porté par le Président de la République depuis 2017. Troisième élément, c'est aussi notre capacité à continuer de garantir. Notre agriculture est une des meilleures du monde en termes de qualité des produits. Mmh. Donc des produits de grande qualité qui sont reconnus
dans un marché mondial déréglé qui joue des fois une concurrence. Là, pour parler de concurrence déloyale tout à l'heure,
c'est vrai que nos produits sont des produits de grande qualité. Et puis le quatrième enjeu sur lequel je voudrais insister, c'est évidemment cette nécessaire adaptation, parce que les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont les agriculteurs. Nos agriculteurs ici en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, d'ailleurs, l'ont parfois subi de plein fouet.
Quel que soit le type d'agriculture, d'ailleurs.
Oui, hein, parce que c'est à la fois des crises sanitaires, avec l'influenza aviaire, notamment la grippe aviaire. C'est aussi, bien sûr, la sécheresse pour l'élevage, en particulier l'élevage bovin.
Et puis, mais de quoi vous parlez concrètement, là, comme vous les voyez en ce moment? Parce que...
Donc, le Premier ministre a annoncé une série de mesures pour justement répondre aux attentes du monde agricole. La première, la mère de toutes les batailles, c'est de garantir la rémunération et finalement garantir que chacun puisse être rémunéré au juste prix, et en particulier la pleine mise en œuvre des mesures, pas entrer dans la technique, mais des mesures qui ont été renforcées par la loi Egalim 2.
Et ça se joue, ça, au plan départemental?
Alors ça se joue au plan départemental. J'ai moi-même participé à des contrôles en grande distribution, à la fois des contrôles d'étiquetage, sur l'origine des produits, parce que la première garantie, c'est que des produits qui sont estampillés français soient bien des produits français, et qu'on ne soit... Il y a des phénomènes de francisation de produits.
Donc on va dans les rayons des supermarchés, on
vérifie. Il y a des contrôles qui sont démultipliés conformément aux consignes du gouvernement. Puis ensuite, au-delà des mesures nationales qui ont été annoncées, sur lesquelles je ne reviendrai pas, sauf si vous le souhaitez.
Malheureusement, on n'a pas le temps.
Gabriel Attal, le Premier ministre, a lancé un mois de la simplification et a demandé dans chacune des préfectures, à la fois à l'échelon départemental et à l'échelon régional, de pouvoir échanger, de pouvoir, diagnostiquer tous les textes, notamment réglementaires, qui pourraient être simplifiés. C'est ce que nous faisons.
C'est ce que vous passez au crible en ce moment.
C'est ce que nous passons au crible dans le cadre à la fois d'éléments de rencontre. Moi, j'ai reçu les trois organisations syndicales représentées à la fois dans le 44 et à l'échelon régional avec ma responsabilité de préfet de région. On les a revus en fin de semaine, et demain j'ai encore une réunion avec notamment la FNSEA et le GIA. Et d'ici vendredi, on aura le même type de format de réunion au niveau régional, en particulier avec les chambres aussi, les chambres d'agriculture qui sont associées et mobilisées.
Voilà pour ce point sur les agriculteurs. Je voudrais qu'on évoque rapidement, si c'est possible, l'aéroport, même si le sujet est lourd et délicat. Le ministre des Transports précédent, Clément Beaune, est venu faire des promesses pour relancer la machine après l'abandon d'un premier appel d'offres. Le sentiment quand même pour les riverains et les usagers qu'on a perdu 5 ans dans cette histoire. Est-ce que les choses vont enfin bouger? Il y a en ce moment une enquête publique en cours. Est-ce que cette rénovation de l'aéroport, on va la voir arriver un jour?
Alors, les choses bougent. Vous l'avez souligné. Le précédent ministre des Transports a pris un certain nombre d'engagements en venant 2 fois ici à Nantes et en réunissant l'ensemble des acteurs et des parties prenantes sur le sujet. Peut-être simplement pour remettre en perspective trois éléments majeurs. Le premier, c'est d'annoncer la relance de l'appel d'offres en prenant acte que le précédent n'avait pas vocation à prospérer. Et donc, on est déjà dans ce schéma-là.
Dans le deuxième appel d'offres.
dans la relance, avec l'appel public qui a été lancé en décembre et le travail qui est en train d'être réalisé, notamment pour, sans rentrer dans la technique, l'élaboration du cahier des charges.
Oui. Ça, c'est qu'est-ce le premier qu'on fait, point. La longueur de la piste, comment exactement, on aménage l'aérogare,
À laquelle, et c'est un élément de méthode très important, on a renforcé la gouvernance et l'association des élus locaux.
Mais c'est quoi le calendrier, là?
Le calendrier, c'est d'ici quelques semaines, en fait, l'élaboration du document de consultation des entreprises qui vont permettre aux entreprises qui souhaitent soumissionner de se positionner par rapport à ce projet. Ça, c'est la partie appel d'offres. Le deuxième élément qui était très important, c'était de renforcer la prise en compte des attentes, notamment en matière de protection des populations et de lutte contre les nuisances, notamment
avec le
les nuisances sonores.
Alors justement, je vous coupe un instant, puisqu'on va évoquer le couvre-feu. Écoutez ce que nous dit Aurélie, elle habite Rezé, et elle a une question toute simple pour vous et puis pour ceux qui décident, en fait, hein, pour les décideurs en général.
De nombreux acteurs, dont Madame Morancet, refusent l'extension du couvre-feu pour des raisons économiques. Pourtant, les études scientifiques montrent que les nuisances sonores et la pollution liées aux avions ont un impact délétère sur la santé. Maintenant, Monsieur le Préfet, pouvez-vous expliquer à ma fille de 4 ans, dans un langage simple, pourquoi sa santé est moins importante que le développement économique de la région ?
Voilà, une question toute simple posée par une maman qui parle de sa petite fille. On parle éventuellement d'un couvre-feu qui pourrait être rallongé jusqu'à 7 heures le matin. Les milieux économiques se crispent.
Le couvre-feu a été instauré sur la plateforme aéroportuaire de Nantes il n'y a pas si longtemps, c'était en 2022. Le ministre des Transports, lorsqu'il est venu, a répondu en disant à l'attente, en indiquant que l'arrêté du couvre-feu allait être modifié pour en optimiser à la fois son application, en optimiser aussi les sanctions lorsqu'elles sont déclarées par l'autorité indépendante qui s'appelle la CNUSA, et permettre donc une amélioration du respect des prescriptions du couvre-feu à droit constant, c'est-à-dire dans l'amplitude horaire qui est aujourd'hui fixée. Là aussi, les choses avancent. On a souhaité procéder à des modifications qui ont été mises en consultation avec l'ensemble des élus locaux. Ça a suscité d'ailleurs des débats, des demandes de modifications qui, je crois, ont été prises en compte. Et aujourd'hui, le nouvel arrêté est en consultation du public jusqu'à la fin février.
Merci pour
une mise en application dès cet été.
Merci pour ce point précis, effectivement, consacré à l'aéroport. J'ai un dernier point à voir avec vous, parce que malheureusement, le temps passe vite. C'est tout ce qui, puisqu'on parlait de pollution sonore, de nuisance dans l'aéroport, il y a du côté du bassin de vie de Saint-Nazaire, de Donge, il y a la raffinerie Total, il y a le dossier Yara, Montoir de Bretagne, cette usine d'engrais, groupe norvégien qui ne respectait pas les règles, plusieurs fois mis en demeure par l'État, et qui décide finalement d'arrêter sa production, de se séparer de 139 personnes sur 173 et de transformer son site en production de stockage. Il n'y a pas là un aveu d'impuissance de l'État, vous n'avez pas pu les contraindre à faire les choses dans les règles, du coup ils s'en vont, mais ce sera peut-être pire le fait qu'ils s'en aillent.
Je ne crois pas qu'on puisse parler d'aveu d'impuissance. C'est quoi le sujet ? C'est une usine, un site de production qui répond à des obligations très strictes en matière de réglementation, et notamment de sécurité, ce qu'on appelle la réglementation ICPE. C'est un site qui est en suivi de vigilance renforcée depuis plusieurs années et sur lequel l'ensemble des services de l'État, notamment les services de contrôle, ont procédé à des arrêtés de mise en demeure. Vous savez, on est extrêmement exigeant. Arrêté de mise en demeure pour se mettre en conformité, sanctions pécuniaires le cas échéant et astreintes liquidées. C'est assez rare que les astreintes soient liquidées. Plus de 700 000 euros ont été liquidés. Après, l'exploitant nous a informé, d'ailleurs par voie de presse, qu'il allait modifier le fonctionnement de son site.
Le transformer en site de stockage, en gros. Et là, on entend dire, attention, on va stocker des engrais qui ne seront plus fabriqués ici. Potentiellement, ils seront encore plus dangereux que ceux qu'on fabriquait ici. C'est ce que disent certains riverains qui s'inquiètent. Notamment.
Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai souhaité qu'on puisse anticiper, alors même qu'on n'est pas encore saisi officiellement du processus de transformation du site en site davantage de stockage. J'ai souhaité anticiper et voir, notamment dans le cadre d'une mission flash, d'un audit flash que j'ai demandé à la Direction Générale de la Prévention des Risques, en appui à l'Adréal ici, de voir les conditions dans lesquelles la transformation de ce site pourrait être accompagnée. Ils m'ont transmis il y a quelques jours un rapport qu'on est en train d'expertiser et d'échanger, parce que c'est une phase contradictoire avec l'exploitant. Et moi, les consignes que j'ai données à mes services, c'est que l'ensemble des recommandations qui sont inscrites dans ce rapport fassent l'objet d'un plan d'action que j'ai souhaité et que je souhaiterais partager avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment du territoire, dès la semaine prochaine, une fois qu'il est élaboré.
Donc l'idée, c'est d'y voir clair, d'avancer en garantissant aux populations la sécurité sécurité. Vous avez des nouvelles de
avec une exigence, hein, oui. Une exigence. C'est, j'allais dire, la grande vigilance évidemment par rapport aux règles de sécurité. Une vraie exigence aussi par rapport au plan social que l'exploitant a mis en œuvre. Et ça, c'est au niveau des services, notamment du travail et de l'emploi. Pour, on sera extrêmement exigeant vis-à-vis de l'opérateur économique, à la fois évidemment intransigeant en matière de sécurité, ça va de soi, et très exigeant en matière d'accompagnement et du PSE.
Et le maire Thierry Noguet, menacé de mort par certains qui lui disent qu'en gros il a sacrifié l'emploi au nom de la sécurité, vous êtes en lien avec lui ?
Bien sûr, et comme avec l'ensemble des élus qui ont à subir des attaques ou des agressions verbales, avec j'allais dire un accompagnement renforcé dans le cadre du fonctionnement quotidien que nous avons avec mes équipes de sous-préfet.
Je crois que je vais vous réinviter. On va vous réinviter, Fabrice Rigoulet-Rose, parce que malheureusement, on n'a pas pu évoquer tous les sujets d'actualité qu'on avait prévus. Mais merci beaucoup de vous être
merci
livré
de votre
à ce
invitation.
Long entretien ce matin, ce petit déjeuner un peu spécial sur France Bleu Loire-Océan et France 3. Bonne journée à vous.